n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de l'actualité politique en France, c'est maintenant dans RFI Soir et c'est avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCBG Conseil, pour commenter la rentrée politique et les préparatifs de la campagne présidentielle qui se précise. Alors, dans 15 jours, les électeurs seront amenés à départager les candidats à la primaire écologistes. Ils sont 5 en lice, Delphine Bateau, Jean-Marc Governatori, Éric Piolle, Yannick et Sandrine Rousseau. 5 concurrents qui ont participé ce dimanche sur les antennes de nos confrères de Radio France au premier de leurs 3 débats, d'ici le premier tour du vote. Un exercice dont ils ne se sont pas forcément sortis très satisfaits. Aurélien Devernois a écouté ce débat pour RFI.
Est-ce qu'on pourrait parler d'écologie ?
Voilà presque une heure que le débat a commencé et Delphine Bateau exprime une frustration apparemment assez partagée. Sécurité, laïcité, bisbille personnelle, les sujets abordés semblent choisis pour créer du clash. Or, les candidats ne sont pas décidés à jouer à ce jeu, comme l'exprime Yannick Jadot.
Je ne participerai pas à nous abîmer collectivement avec une primaire où les phrases assassines prendraient le dessus.
Sauf qu'il est bien difficile d'entendre les différences. Tous les candidats sont plutôt d'accord sur des thèmes comme le nucléaire, la sobriété des modes de consommation ou le soutien à une agriculture moins intensive. Et c'est bien sur l'identité politique que le débat se joue, à l'image de cette phrase de Jean-Marc Governatori.
Depuis 30 ans, l'écologie politique en France subit un boulet. Ce boulet, c'est la gauche. L'heure est venue de l'écologie au centre.
L'entrepreneur niçois est en effet bien loin de l'état garant de la création d'1,5 million d'emplois dans l'économie durable, défendu par Éric Piolle, ou du projet écoféministe de Sandrine Rousseau.
Quand j'entends mon collègue Jean-Marc Governatori, je me dis qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. La question écologique et la question sociétale et sociale sont intimement liés. C'est ce que je porte dans cette primaire.
Les électeurs de la primaire auront de nouveaux débats, mercredi et vendredi, pour y voir plus clair avant le premier tour, le 20 septembre.
Philippe Moreau-Chevrolet, il vient d'être question d'écologie du centre, on l'a entendu, parce que l'écologie a toujours été de gauche jusque-là. Est-ce là la marge politique de l'écologie pour peser plus lourd sur l'échiquier politique ?
Alors, l'écologie, elle n'est plus de gauche depuis longtemps. Chacun essaie de se l'approprier, surtout y compris à droite. On a vu l'alliance éphémère entre Emmanuel Macron et Nicolas Hulot. On a vu dans le discours, beaucoup de discours écologistes qui sont tenus par des dirigeants de droite. Après, ce qui tue un petit peu l'écologie politique, c'est qu'à chaque fois qu'on nomme un ministre écologiste, quel qu'il soit, quel que soit le gouvernement, au fond, il n'y a pas vraiment d'action derrière, il n'y a pas vraiment de concret. Et c'est toute la crédibilité des écologistes au pouvoir qui est posée, que ce soit de droite ou de gauche.
Alors l'eurodéputé Yannick Jadot est en tête des intentions de vote selon un sondage Ipsos, mieux placé chez les militants écolos. Mieux, c'est le candidat de gauche qui recueillerait le plus de suffrages au premier tour de la présidentielle. 10% d'intentions de vote, il se place juste devant la socialiste Anne Hidalgo, 9%, et le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, 8%. Autrement dit, la tendance observée aux élections européennes de 2019, puis aux municipales de l'année dernière, et enfin aux dernières régionales, semble donc se confirmer.
Oui, c'est assez logique, hein, parce que en fait, l'écologie, c'est le dernier bastion de l'authenticité de gauche. C'est ce qui peut donner du sens, de la nouveauté, de la désirabilité, comme on dit, à une candidature de gauche. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment intègre. Quand on est écologiste, vraiment, ça suppose de faire des sacrifices. Déjà, à titre personnel, ça suppose une ligne de conduite, ça suppose pas mal de choses qui sont, au fond, de l'ordre de l'exemplarité aussi personnelle. Et c'est de nature à revivifier la gauche, à lui permettre de redécoller. Ça, les électeurs le voient, le plébiscite. Donc ça suppose, comme l'ont dit certains leaders à gauche, hein, ça a été le cas notamment un petit peu d'Olivier Faure ou de Benoît Hamon, hein, qui ont commencé à dire peut-être que l'issue, ça va être une candidature commune écologiste.
À gauche, justement, un peu plus de 7 mois de cette élection présidentielle, une nouvelle candidature, celle d'Arnaud Montebourg, l'ancien ministre socialiste dit vouloir, je le cite, éviter à la France la douleur d'un deuxième quinquennat Macron ou le danger d'un premier quinquennat Le Pen. Voici la réaction aujourd'hui sur France 3 du président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner.
Arnaud Montebourg a eu une expression qui ne m'avait pas plu il y a quelques mois, en disant « je veux être le point de jonction entre Jean-Luc Mélenchon et Xavier Bertrand ». Donc aujourd'hui, Arnaud Montebourg est candidat, il a des idées intéressantes, je pense que ces idées peuvent être très utiles. Par exemple, la relocalisation des entreprises pour avoir plus de souveraineté industrielle, j'y participe. La remise sur le marché d'1 million de logements vacants, ça fait des années que je le souhaite aussi. Donc des choses utiles, mais est-ce que sa candidature est utile ? confettis dans une gauche qui est déjà en confettis, permettez-moi d'en douter.
Voilà, une gauche en confettis, une gauche divisée. Il y a aussi une droite divisée entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et d'autres. Comment se fait-il, Philippe Moreau-Chevrolet, que la vie politique en France ne se fasse plus autour de ténors incontournables et incontestés comme dans le monde d'avant?
Et parce que, en fait, la candidature d'Emmanuel Macron a montré la fragilité de ces candidatures, a montré qu'on pouvait, en fait, dégager des personnalités déjà bien installées. Donc, le monde politique se cherche de nouveaux équilibres. On voit bien la tentative de retrouver un équilibre à gauche à travers l'écologie. On voit que la droite cherche à se réancrer quelque part à travers l'identité, à travers des démarches plus proches de celles de Zemmour. On voit bien qu'il y a des tentatives de recherche comme ça, de nouveaux caps politiques. Et on voit, il faut quand même le dire, une gauche qui devient plus conforme au fond à ce qu'est une gauche chevènementiste, c'est-à-dire la candidature d'Arnaud Montebourg, c'est la souveraineté. C'était aussi la promesse de Macron en 2017, hein. On va vous rendre la souveraineté, on va être sévère avec l'Europe et incarner ça quelque part.
Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale. Le président de la République a passé 3 jours cette semaine à Marseille. Il y a annoncé un plan Marseille en grand, fort d'1,5 milliard d'investissements, notamment pour l'automatisation du métro, la création de 4 lignes de tramway et de 5 lignes de bus. L'État se doit de financer, mais il faut régler les problèmes d'organisation, a dit le chef de l'État.
Vous avez un problème avec vos personnels municipaux et vous avez trop de grèves. L'absentéisme, les grèves perlées, c'est un sujet. Et c'est un sujet dont il faut se parler en toute franchise, parce que l'État ne vient pas investir pour en quelque sorte que certains viennent prélever leur dîme.
Éric Ciotti est l'un des candidats déclarés à l'Élysée pour les Républicains. Il est élu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, justement, où se trouve Marseille. Il réagissait ainsi ce matin sur l'antenne d'Europe 1.
Monsieur Macron a fait sa tournée électorale avec son chéquier en main, avec des visées que l'on voit bien, mais la réponse, elle doit être dans l'autorité. J'ai pas entendu avec force dans son discours cette volonté de restaurer l'autorité de la République. La réponse, elle doit être dans des enquêtes judiciaires massives.
Et là, il parle plus particulièrement de la lutte contre la drogue. Sur ce qu'a dit le chef de l'État sur les employés municipaux marseillais qui ne se tueraient pas à la tâche, Philippe Moreau-Chevrolet, les Français reprochent souvent aux politiques de ne pas parler vrai et avec simplicité. Et puis, quand le président de la République dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, il se fait sévèrement critiquer. Comment expliquer cette contradiction?
Eh ben, c'est quand le chef de l'État le fait, il le fait depuis le haut et critique le bas, finalement. Et c'est ce qui est mal ressenti avec Emmanuel Macron depuis le début. C'est au fond l'erreur du début de son quinquennat d'avoir surjoué la verticalité, l'autorité, alors qu'il était déjà perçu comme, au fond, un petit peu ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon, même si c'est caricatural, le président des riches. Il a accentué ça au cours de son quinquennat. Du coup, tout ce qu'il peut dire du registre de la critique des plus petits, c'est insupportable. Et donc, à partir de là aussi, il y a un clivage qui est non dit dans la société française entre les petits et les gros, qui se réanime, qui se rejoue au détriment d'Emmanuel Macron. Et c'est presque plus d'ailleurs ce clivage-là qui explique la persistance des gilets jaunes, la persistance du mouvement anti-vax, que les vrais sujets.
Vous êtes un spécialiste de la communication politique, notamment avec votre cabinet conseil, MCBG. Vous diriez donc que le parler vrai, c'est pas forcément ce qu'il faut faire.
Non, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, au sens où tout n'est pas. Quand vous dites quelque chose et vous êtes président de la République, vous avez une gamme, on va dire, comme un piano. Vous pouvez jouer beaucoup d'air. Si vous choisissez dans une campagne électorale de taper, entre guillemets, sur les fonctionnaires, sur des petits fonctionnaires, vous jouez un air qui est très bon pour vos électeurs de droite, surtout les électeurs âgés qui ont une vision assez critique des salariés du secteur public. Donc ça parle à la droite, mais vous allez forcément, fatalement, fâcher les gens, déjà les principaux intéressés, les gens qui se disent « mais attendez, d'où il parle, pourquoi il attaque des petits fonctionnaires, c'est pas juste ?» Et ça va avoir un impact. Donc c'est des airs de campagne qu'on joue parce que ça plaît, parce que c'est susceptible de rapporter des voix, sans penser forcément au long terme ni aux conséquences que ça crée. Le parler vrai, il pourrait dire beaucoup de choses qui sont tout aussi vraies. Il pourrait effectivement parler, comme le dit Ciotti, du problème de la drogue, du problème de l'acheminement à travers les ports, de plein d'autres choses. Il choisit de parler de ça, donc c'est ce qu'on lui reproche. C'est le choix, finalement, qu'on lui reproche.
Revenons à Éric Ciotti, justement. Il était interrogé ce matin sur Éric Zemmour, polémiste de droite, qui défraie la chronique en ce moment avec une putative candidature à l'Élysée.
qui fait le constat d'un déclin de notre pays, de menaces. Je partage aussi ce constat. Après, nous n'avons pas la même histoire, les mêmes appartenances.
Marine Le Pen n'a pas la capacité de gouverner, donc je ne voterai pas pour elle. En revanche, Éric Zemmour, qui a été condamné par la justice, vous êtes prêt à voter pour lui?
Je fais une différence entre les deux. Je fais une différence
mais entre en faveur les deux. D'Éric Zemmour.
Bien entendu. C'est des condamnations pour qui me paraissent aller beaucoup trop loin dans la sanction qui a été portée.
Éric Ciotti pour Les Républicains. Éric Zemmour crédité de 8% d'attention de vote pour Ipsos pour 7% selon un sondage IFOP qui sera publié tout à l'heure par le Figaro. Comment expliquer, Philippe Moreau-Chevrolet, une telle popularité pour un polémiste médiatique?
Parce que déjà, il est très connu, Éric Zemmour. Ça fait des années, des années et des années que les auditeurs de RTL, et puis ensuite ses lecteurs en librairie, et puis maintenant son public sur CNews le suivent et au fond écoutent ce qu'il dit. Il a ce mélange qui est assez français d'intellectuel, au fond, qui se vante d'être cultivé et qui l'est, et d'agitateur politique. C'est un mélange qui en général plaît bien, surtout à l'extrême droite, là où il se situe aujourd'hui. Et on voit bien que les 8% qu'il commence à représenter, ça commence à intéresser la droite et l'extrême droite. Donc ils vont commencer à se disputer, Éric Zemmour. Et après, c'est l'habileté politique ou non d'Éric Zemmour qui permettra qu'il en fasse gagnant ou qu'au contraire, il se fasse dépecer. Il faudra qu'il devienne un politique. Là où Éric Ciotti, quelque part, a raison dans ce qu'il dit, c'est que Éric Zemmour n'est pas un politique. Pour l'instant, on l'a pas vu dans des bains de foule, serrer des mains. Il prend pas forcément un grand plaisir. Enfin, voilà, ça reste un intellectuel médiatique pour l'instant.
Merci pour ces analyses et commentaires, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, d'avoir été le premier invité de la rentrée de Dimanche Politique.